Ce cours est dédié pour la refoua shlema, la prompte guérison de Belara Bat Esther. Repose la question, mon cher ami.
Quoi faire, peut-être ? Ou comment lutter contre les pensées ? Dans le monde entier, combien il y en a qui font d'ailleurs, etc. Prenez sur moi.
Parce que tu es à la Yeshiva, mon cher ami. D'abord, tu as donné pendant 20 ans, oui, etc. Maintenant, tu viens, tu fais un truc. Comprends, il y a des règles dans ce monde. Quelqu'un, il fait des péchés, il investit dans le mal. Il se crée une relation avec un tuyau négatif. Il investit là-dedans. Quelqu'un qui fait des mitzvot, il investit dans le positif. Maintenant, partout où tu investis, tu as un compte. Tu as une facture, tu as des machins, tu as déposé maintenant à la banque négative, tu as dépensé maintenant beaucoup de tous tes trésors, tu as mis là-bas. Tu ne peux pas retirer ça. Tu ne peux pas retirer, ça leur appartient. Tu as fait un pacam en hébreu, d'accord, un investissement sur 50 ans, ça reste là-bas, et puis après, il y aura les factures. Enfin, tu ne peux pas le retirer.
Pourquoi on ne peut pas le retirer? Cette fois, on a réussi à le retirer. Des yetzarim qu'on avait, qui étaient très très forts.
Attends. Normalement, on ne peut pas. T'as donné, t'as investi, t'as construit là-bas, t'as construit des palais dans la banque, ils sont à toi. Dieu a créé un système D. Un truc extrêmement injuste pour les Tserara. Extrêmement injuste. Mais Dieu, dans sa grande bonté, a vu qu'on n'avait aucune chance contre les Tserara. Il est trop fort. Et l'homme ne peut pas, qui est Adam, N, Tzadik, Bar, Secharia, Seto, Velo, Erta. Adam, tu n'as pas un homme qui soit Tzadik, qui n'a pas fait de péché. Ça n'existe pas. Il y a eu quatre toute l'histoire qui n'ont jamais fait aucun péché, mais ce n'est pas de degré, absolument pas. Abraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, Aaron, Yosef, David, Shimon, tous ont fait des péchés. Au moins un. Nous, il n'y a pas un jour qui passe sans péché. Bar volontaire noir abîme, par notre grande culpabilité. Néanmoins, Dieu, il a vu qu'on vit dans un monde où il y a de fortes chances que nous fassions des péchés, donc il a créé un système D, qui s'appelle la tchouva, qui est tout bête. Tu dis, Dieu, j'ai péché. Je regrette. Je ne sais plus.
Il y a plein de fautes.
Du jour à la seconde, tout... Etc. Tu comprends, il regarde ses dollars, ta, il y a papa, oh là là, et vas-y, encore elle a pêché des millions là, et il n'a plus rien. Waouh, terrible. Il ne peut rien faire. Tu vois, c'est un truc qui fonctionne. Mais il peut t'enquiquiner. Maintenant, il y a différents endroits où il peut t'enquiquiner. En France, il peut t'envoyer une bonne femme. Dans ta chambre, il te l'enverra. En Israël aussi. À la Yeshiva, déjà, il y a un garde à l'entrée, un garde invisible. Même nous, d'accord, il y a une bonne femme qui vient. Mais à part ça, il y a, c'est un droit de Torah, c'est conservé, il y a la ktoucha, il y a de la sainteté qui fait qu'il y a déjà une certaine paroi. Alors, qu'est-ce qui peut t'envoyer? Deux choses. Internet. Aujourd'hui, il y a la troisième génération, d'accord, tu peux te brancher même à distance sur quelqu'un qui a Internet, et tu reçois des emails, voilà. Ou... Sans Internet, ton Internet, d'accord, ce que tu as vu maintenant, etc. Tu as investi, alors lui, il a un pouvoir, un certain pouvoir, vu que tu as investi chez lui, tu as le coffre qui est encore ouvert. D'accord. Il est vide, le coffre il est ouvert, au nom de Eliaou. Donc, lui, il vient et dit, mon cher ami, souviens-toi des palais fantastiques que nous avions ensemble ici, elle était douce la vie avec nous, viens. Ah, il est terrible, etc. C'est marqué dans Zohar que chaque matin, il vient déguisé en prostituée, qui se parfume et qui se bijoute. Il nous embrasse de ses baisers amoureux, etc. Le jour de la mort, il vient tout à coup et on croit que c'est de nouveau lui. Ça va, t'es gentil, ça va, Dieu t'aime bien, t'as fait, c'est pas si grave. Puis un beau jour, un jour de la mort, terrible. Toi, tu crois qu'il va te dire mignon, t'es gentil, et tout à coup, c'est l'ange de la mort, terrible. C'est terrible. Il vient habillé en prostituée. Donc c'est tout à fait normal. C'est normal. C'est la moindre des choses. Après que tu lui as repris tous les trésors que tu lui as donnés, tu as laissé son coffre vide et lui il vient maintenant, il n'y a plus rien. Là, c'est quelque chose. Qu'est-ce qu'il peut t'envoyer? Des pensées. Ok, alors d'abord c'est normal, première chose. Deuxième chose, il faut essayer de se battre contre les pensées. Alors comment se battre? Surtout pas en bataille. Je ne veux pas penser à ça. Parce que je ne veux pas penser à ça, ben tu ne veux pas ne pas y penser, comme je dis toujours. Ne pensez que personne ne pense maintenant à une tomate. Que personne ne pense à une tomate. Hein? Le meilleur moyen, c'est de dévier la pensée vers autre chose. Tu prends vite un livre, quelque chose, qu'est-ce qui est marqué? Maintenant, tu prends ça, et la bonne femme, elle te sort là entre les lignes. Ok, ça donne. Alors, si tu peux pas, on peut pas. Il y a des choses, des trucs qui sont utiles. Par exemple, le mikvé. Mikvé, c'est bien d'aller au mikvé tous les jours. Ça purifie. Il y a prier à Dieu, sauve-moi des hérorim. Il y a les noms que j'ai cités une fois dans un cours.
Ils sont durs.
Mais ça marche. T'as un nom, je vais rappeler pour ceux qui n'ont pas encore vu, c'est un cours déjà que j'ai déjà fait, mais il y a... Oui, mais un meilleur nom. Il faut voir les trois lettres en lettres de lettres d'imprimerie juive, les lettres Gimel, Dalet, Shin, Nun, Aleph, et puis Lamed. Six lettres.
Nun, c'est le grand Nun normal.
Voilà. Pardon ? C'est le nom d'un ange que dévoile un grand rabbin ici dans un livre, le Rav... Tarat HaKodesh, la pureté de la sainteté, il dévoile ce nom-là pour faire partie des mauvaises pensées. Ou bien le deuxième nom que tu as rappelé, Kouf, et puis Resh, et puis Aïn, et puis Sin, et puis Tet, et puis Nun, Nun Sofit.
On va voir le point aussi du Sin ?
Non, sans, inutile de voir le point. C'est bon comme ça. Donc ce sont des choses qui aident. Ou Yudke Vavke, tout simplement, le nom de Dieu. Yudke Vavke. Se frotter les trois fois le front en pantant, tu fais comme ça, d'accord. Il y a moi personnellement un truc que j'ai vu quand il me pensait qu'il vient, je fais comme ça, un mouvement, ça aide. Bon, chacun avec ses trucs, il faut commencer à se connaître, c'est pas...
D'essayer d'oublier le biais de Sarah, plutôt que de se
marquer sur lui. Oui, d'accord, t'as raison. Le mieux, c'est arriver à dévier la pensée, c'est ce que j'ai dit en numéro 1. Tu dévises vers autre chose. Toi, le Rambam dit, Maïmonide dit, les pensées de bonne femme, de Harayot, elles ne rentrent que dans l'esprit qui est vide de Torah. Faut remplir la Torah. Maintenant, le problème, c'est qu'on a été vide pendant 20 ans, on se remet à... Alors, ok, on est un peu rempli, mais... Et oui, non, on se remplit. Et ça part. Un beau jour, ça part, mon cher ami. Ça part. Ça, c'est la guerre. C'est comme... Chaque nouveau degré qu'on veut accéder, il y a une bataille. Une fois qu'on l'a accédé, il y a des gens pour eux, le premier kippour, c'est extrêmement dur. Ils ont même fait kippour, premier kippour, et ils sont comme ça. Après, ça rentre. Kippour rentre. Après, Shabbat, ça rentre. Après, Tfilin, ça rentre. Au bout d'un moment, tout devient machin, parce qu'on a déjà dépassé. On arrive à un degré de libre arbitre, de choix qui est plus haut. Mais c'est ça la bataille. En cela, il y a un grand mérite.
On avait dit au dernier qu'il ne fallait pas demander à Dieu des miracles contre nature. Est-ce qu'on peut lui demander de nous effacer la mémoire ?
Non. On a besoin de la mémoire pour la Torah.
Ok, mais vous effacez tout ce qui n'a rien à faire.
Oui. Oui, bien sûr.
Et ça peut se...
Bien sûr.
Ça peut se réaliser.
Dieu purifie mon corps. Que je puisse te servir dans la pureté, je ne veux pas avoir des bilboulim, je ne veux pas avoir des pensées mauvaises. Bien sûr, c'est les prières qu'il faut faire. Il faut faire. On a besoin de Dieu. On a besoin de Dieu. Et ça marche. Dieu, aide-moi à ne pas avoir de mauvaises pensées.
Si pendant la mida ou une prière, on a des pensées, même si ce n'est pas des pensées bonnes, mais si on pense à son travail ou des choses comme ça, c'est quoi? Alors c'est un manque de concentration dans ce cas-là ou c'est le Yetzer Hara?
C'est aussi Yetzer Hara, mais on va dire comme ça. Quelqu'un qui est extrêmement proche de Dieu et maintenant il va prier. Alors facilement, il se met en connexion avec Dieu. Quelqu'un qui n'est pas proche de Dieu dans sa vie, et prenons tout avec mesure, c'est le cas à nous tous, d'accord? Alors ça, le temps de connexion, il est beaucoup plus... L'effort de connexion est beaucoup plus grand. Il y a plus d'écrans qu'il faut franchir. Et vu qu'on est très pris, on est happé par nos problèmes matériaux, donc la connexion avec spirituel est extrêmement dure. Donc, appelle ça Yetzera, pas Yetzera. Oui, d'un côté, je suis pris par la matérialité, c'est oui Yetzera, c'est un Yetzera différent. Une fois, le Rav de Brisk, il avait pris le bateau pour venir ici, de façon clandestine, il avait pris le bateau pour venir ici en Israël. Ils avaient très très peur, et le capitaine les avait vus, il dit, je m'occuperai de vous, et pour finir, il avait très peur qu'à chaque moment, le capitaine se souvienne qu'il doit s'occuper de ces gens-là qui sont... rentrer dans le bateau en clandestinité. Rav de Brisk a dit, n'ayez pas peur. Ce capitaine-là, c'était un juif, mais il ne fait pas la prière, il est pas religieux, il ne prie pas. Il ne va pas se rappeler. Pour se rappeler des choses qu'on a oubliées, il faut quoi? Il faut un moment de prière. Quand tu pries, quand tu es censé prier en tout cas, tu, ah, il y a ça, ah, il y a ça, ah, il y a ça, 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 tout revient maintenant. C'est très triste, d'accord? Mais c'est une réalité. C'est une réalité maintenant. Donc, la prière est une chose qui est difficile, mais si on se met en état, c'est marqué dans la Gemara que Chassidim Rishonim, les premiers Chassidim, les hommes pieux, il se prépare la prière une heure avant, une heure après. Il décolle carrément. Donc il y a le Shulchan Aruch, c'est pas un livre de moussar, c'est un livre de loi. Il dit dans le chapitre 98 des lois du Shulchan Aruch, il dit que dans la prière, on doit arriver à itpashtut hagashmiut, à se nous débarrasser de la matérialité. Tu quittes le corps. Voyage astral, ton âme qui part. Je ne sais pas si c'est exactement comme ça un voyage astral, mais tu es en état de tellement grande concentration, communion avec Dieu, tu ne sais pas ce qui se passe à côté. Tu es complètement... Tu es autre part. Tu reviens tout seul, c'est pas... On revient. Tu as des gens qui ne sont pas revenus. On dit sur... Le Rama Mipano, le Rabbi Menachem Azaria de Pône, de Pano, c'était un grand kabbaliste il y a 400 ans. À la fin de sa vie, il priait tout seul dans sa chambre, il n'y avait pas en minyan pour faire des concentrations kabbalistiques très hautes. Il a demandé à son shamash, à son bedo, qu'après une demi-heure qu'il commence la mida, il vienne et tape à la porte. Et qu'il n'oublie surtout pas. Et une fois, il a oublié le bedo, il est venu, le Rav était mort par terre. Il était parti, il n'était plus revenu. Bon, ça, c'est des degrés qui ne nous concernent pas à nous. Mais nous sommes censés, d'après le Shulchan Aruch, chacun dans la prière. Donc, si tu viens comme ça, de ton travail, c'est impossible, matériellement impossible, que tu sois en connexion avec Dieu. Dans tes affaires, rien que tu rentres dans la prière. Impossible. Alors, qu'est-ce que tu fais? Tu t'arrêtes 5 minutes avant, tu te concentres. 5 minutes, c'est déjà énorme. Au moins 30 secondes. Tu dis 30 secondes, tu dis maintenant, j'arrête tout. Donc, je vais parler à celui qui m'a créé. À Kadosh Baruch Hu, l'infini de Dieu. Je me mets en relation maintenant, quand je fais les trois pas, je me mets devant la Shrina. Rien que ce travail-là d'imagination, déjà, il fait un grand travail de préparation. Tu veux pas, sans préparation, il n'y a rien. Tout doit être préparé. Tu montes une affaire, tu fais un business plan. Tout doit être planifié, doit être préparé. La prière, aussi, une connexion avec Dieu, il n'y a rien qui se fait automatiquement. Ça n'existe pas. C'est pas juif, c'est pas réel. Donc il y a une préparation. Préparation, alors tu réfléchis, tu te concentres et tu te prépares à rentrer maintenant en prière, en demande, en abnégation devant ton Créateur. Rien que cette parole-là que je dis 10 secondes, ta prière commence déjà différemment.
Parfois, mais des fois sans savoir pour tout d'un coup, schlack.
Bien sûr, schlack. Il y a des trucs, le Rav Frida, il écrit comme ça. Chacun doit d'abord apprendre à se connaître quand est-ce qu'il se concentre, quand est-ce qu'il ne se concentre pas. Et ça dépend aussi, moi personnellement, ça, je sais que j'ai des périodes dans l'année différentes. Il y a des périodes où je fais la prière lente, des moments où je fais lente, je sais que je vais complètement avoir des tas d'idées, donc je fais plutôt en rapide. Il y a des techniques. Alors il y a la technique lente, c'est tu ne dis pas un mot sans te concentrer. Pour prendre une demi-heure et tu reprends. Tu peux répéter des mots, si tu as raté un mot, tu peux répéter le mot dans la prière, donc que tu ne répètes pas au moment d'une brahat. Tu peux pas dire Baruch Ata Hashem, Ata Hashem, Baruch Ata Hashem, Hashem, Baruch Ata, peut-être ça n'a pas le droit. Il dit Baruch Ata Hashem, il faut continuer. Mais tout ce qui est entre, tant que tu as rappelé le nom de Dieu et ça a un sens, d'accord, Shema Kolenu Hashem Elokeinu, écoute notre voix, l'Éternel, notre Dieu. Tu peux répéter une deuxième fois. Tu peux pas dire Shema Kolenu Hashem. Pour dire, j'ai mal d'y penser Hachem. Je redis Hachem, ça on ne peut pas. Le nom de Dieu, on ne peut pas le dire en vain. Tout le reste des phrases dans lesquelles le nom de Dieu n'apparaît pas, tu peux les répéter tant que tu veux, pour avoir même un mot, tu peux répéter pour le redire avec sens. Une phrase où il y a le nom de Dieu, tu peux la répéter entièrement, du moment que ça a un sens. Une bracha, on ne peut plus jamais la répéter. Une fois qu'on a une bracha, on ne peut pas la répéter une deuxième fois. Ça, c'est déjà mort. Alors, il y a une technique qui est de dire chacun des mots. En se concentrant. Nos techniques, il dit, tu ouvres le livre et tu lis le mot. Tu lis le mot. Tu penses ce que ça veut dire, j'avance. Je n'ai pas pensé, je répète. C'est lent, c'est un effort, mais ça marche. Si on n'est pas capable, et c'est concevable qu'on ne soit pas capable parce qu'on est trop pris dans le flow, alors il y a une autre technique, qui est la technique rapide. Comme ça dit le Rav Frida. Le Rav Frida, il dit comme ça. Avant la bracha, tu t'arrêtes. Tu réfléchis maintenant, en gros, le sujet de la bracha. De quoi on va parler? René Nadat. Et tu prends ton souffle. Tu l'as dit très rapidement. Après, tu respires. Toute la bracha, tu l'as dit sans respirer. D'un souffle. Des fois, c'est long. Alors, des fois, je m'arrête au milieu, je reprendrai, et de nouveau. Le fait de respirer calmement, ça nous met en état de relax. Relax. Tu as le flot des mauvaises pensées ou pensées extérieures qui viennent. Quand tu es en tension, ça arrive mieux à se concentrer. Baba Meir dont on parlait, maintenant, comment est-ce que tu l'agmara? passe-moi la Gemara, passe-moi une Gemara. Là, celle-là, elle est bon exemple. 8 kilos, elle pesait. Hein? 4 kilos? Comment on étudie normalement la yeshiva? D'accord? Les gens qui étudient bien, ils étudient comme ça. Les gens qui étudient un peu moins bien, ils étudient comme ça. Il y en a qui étudient encore moins bien, comme ça. D'accord? Tous ces moyens. Plus tu es concentré, mieux c'est. Baba Meir, comment est Rabbi Shimon Bar Yochai, il y a 2000 ans, tu étais debout. Debout! La Torah, jusqu'à Rabbi Shimon Bar Yochai, il était interdit d'étudier Dieu la Torah assis. Debout! En tension. Baba Meir, comment il étudiait? Comme ça. Ça, c'est la tension. T'es en tension, t'as pas de temps à perdre, parce que c'est pénible. D'accord? T'étudies, chaque mot, c'est en tension énorme. Rava! Rava, la Gemara raconte, Rava, comment il étudie la Torah? Il avait ses doigts, ils étudiaient accroupis, il avait ses doigts dessous, et ça saignait! De la tension qu'il avait, il écrasait avec son pied, ses sandales, il écrasait ses doigts de tension. Mais je peux comprendre ça quand t'es en tension énorme. Ok, c'est pas un autre degré. En prière, mets-toi en état de tension. Moi, j'en ai un truc personnellement, dernièrement. Quand je me balance, je me concentre moins. Je me mets en état comme ça, de balancement, et hop, et tu penses à... Et t'as l'impression que tu pries, parce que t'es balancé par la prière. Hein? T'es balancé. La halakha, elle permet, il y a une marloquette. Il y en a qui disent qu'il ne faut pas se balancer, il y en a qui disent oui se balancer. Un temps, la coutume des Sfaradim, c'est de ne pas se balancer, alors que les Ashkenazim, oui, se balancer. Les Rabbanim nous ont dit aujourd'hui, chacun fait ce qui est mieux pour lui. J'ai vu des grands Rabbanim, surtout les grands Rabbanim Sfaradim, le Rav Odia Yosef, le Rav Ben Sion, le Rav Tzad, Yehuda Tzadka, immobile, comme ça, en concentration. Chacun doit commencer à se connaître lui-même. Quand est-ce que ça va mieux? C'est un travail.
On se rend compte qu'au début de la tchouva, on avait à faire des prières super concentrées comme ça. Et plus on avance, plus c'est difficile. Au début de la... on a besoin de plus de temps pour se préparer alors maintenant.
Au début de la tchouva, Dieu t'a pris d'où tu étais. T'as rendu hyper tzadique. C'est Dieu qui t'a soulevé. Après, il te lâche, il dit, allez, débrouille-toi tout seul. Et tu remontes toi tout seul. Mais il faut arriver au même degré. Avec le temps, on peut y arriver.
On peut retrouver le même degré de...
Absolument. Absolument, par nous-mêmes.
Par quoi?
L'étude de Torah, Moussa, prière, tout. La Kdusha, la sainteté. S'éloigner des péchés, vivre en Kdusha, vivre en Torah. Le meilleur, la chose qui nettoie le plus, étude de Torah, Be'iyun. Étude de Torah, dur comme ça, c'est passionnant. Ça doit, au bout d'un moment, ça devient quelque chose qui est passionnant, qui nous prend tout l'être. Qui nous prend tout l'être. T'as une kouchia, t'as une cité, c'est pas clair, tu refais, tac, t'as trouvé un tiro. Tu vis là-dedans, c'est marqué, la Gemara dans Baba Metzia, non, pardon, c'est dans Brachot, c'est marqué, Ashote Maim Metzmao, celui qui boit de l'eau de façon assoiffée, il a soif, c'est la bracha, Shakol Niabidvaro. Shakol Niabidvaro. La bracha, que tout a été fait. Béni Dieu, béni soit l'éternel notre Dieu, Shakol Nia Bidvaro, que tout a été fait par sa parole. Quand on boit de l'eau, quand on boit du lait, quand on. D'accord, la Gemara dit. Alors on dit comme ça, les Balais Moussar disent comme ça. Ils disent, celui qui boit de l'eau assoiffé, l'eau c'est Torah. Marqué dans Baba Kama, page 17, toujours, chaque fois qu'on parle de l'eau, ça symbolise la Torah. Celui qui boit de l'eau assoiffé, t'as soif de Torah. Shakol. Il me fait une mevarech quand il fait une bracha. Shakol Niabidvaro. Tout se réalise. Il est aimé de Dieu. Il fait une bracha. Et on a vu des grands qui étaient des grands en Torah. Ils faisaient une bracha, ça marchait. Parce que. Ils étaient assoiffés de Torah. La Torah, c'est la parole de Dieu. Ça purifie tout. Il n'y a pas de chose qui est plus grande que cela.
Quel rapport à assoiffé de Torah et le Yud? Parce que le Yud, il faut être assoiffé de Torah pour arriver au Yud. C'est ça?
Pour que la Torah te rentre dans les tripes. Dans les tripes, d'accord? Il faut que tu aies touché les points... Il faut que ta tête soit profondément imprégnée des questions-réponses qu'il y a dans la Gemara. Et ça, c'est pas possible quand tu fais une étude superficielle. Superficielle, c'est questions-réponses. En Ayoun, du coup, tu vas, t'es tout. Ah, il y a un truc qui cloche. Tu regardes, du coup, tu as une compréhension plus profonde, plus belle, plus fine. Après, tu vois quelqu'un y a dit autrement. Et tu vois, tac, la profondeur d'études, s'échigner les méninges pour aller comprendre ce qui est marqué. Et des fois, je me souviens, dans ma jeunesse, je prenais trois mots de Rashi. Je restais des fois 2-3 heures dessus. Alors, je prends le dictionnaire, premier mot, deuxième, troisième mot. Alors, dans quel sens maintenant? Alors, on lit 1, 2, 3. Mais est-ce que tu mets une virgule après le deuxième mot ou après le premier mot? C'est dit avec un point d'interrogation ou un point d'exclamation? Est-ce que c'est une question? Est-ce que c'est une réponse? Est-ce que c'est oui, non? Tu casses la tête. Au bout d'une heure, tu trouves. Bonheur. Un bonheur infini, on avait. Un bonheur infini. Parce que le fait de s'échigner les méninges, ça procure une relation de proximité à Dieu énorme. Qui est entre autres une faculté de nettoyage énorme. Elle a une faculté de nettoyage, mais parce que tu es branché avec la divinité, comment tu peux te brancher de façon extrêmement concentrée, avec une tension de concentration avec Dieu. Ce n'est pas en étude superficielle, c'est qu'en étude profonde. Je pense que plus on étudie, plus on est assoiffé, c'est vrai, mais plus tu en, la Torah, plus tu en as, plus tu en veux. Tu deviens assoiffé. Chaque seconde de vie qui passe en Torah, après, tu es triste. Tu es triste qu'il te manque de la Torah. Tu es triste parce que c'est tellement bon, tellement bon. Il y a l'autre Gemara qui dit, c'est Rabbi Tarfon, je me souviens bien, un autre avis dans la Gemara qui dit, celui qui boit de l'eau, shote maim mitzmao, il fait une borene fashot rabot. Il fait la bracha que nous on fait aujourd'hui à la fin. Après qu'on ait bu un verre d'eau, on fait la bracha borene fashot rabot. Lui dit qu'on fait la bracha au début. Quelqu'un va boire de l'eau, comme ça c'est un avis. La lacha n'est pas comme ça, mais c'est un avis. Que dit cet avis-là? Celui qui boit de la Torah, assoiffé, borene fashot rabot, il crée des âmes. T'as un pouvoir de créer des âmes. Et c'est pas si loin. On ne va pas maintenant de ressusciter des morts. Ça, c'est pas de notre domaine encore, on va dire. Mais on parle maintenant de comme ma chère Bernard Hachem, oui, il y a des cas de Magmara, on voit des rabbins qui ont créé des êtres humains comme ça. Ils ne peuvent pas parler. Des êtres humains qui ne parlent pas. D'accord? Des golems. Mais néanmoins, tu crées, c'est marqué lorsque tu lis la Torah, tu crées des âmes, tu amènes des âmes sur terre. Tu fais en sorte qu'il y ait des âmes qui sortent du côté négatif, qui sont prises dans le côté négatif, et elles viennent, tu leur donnes, grâce à toi, elles viennent sur terre. Rien que par l'étude de Torah.
Ou alors c'est le pouvoir de faire qu'un juif de côté du monde, alors il ne fait pas une...
Ça, n'importe quel message que nous faisons maintenant. Alors, on fait monter toute la barre d'Israël, on est sur la même barre. Quand quelqu'un fait le message, il fait monter, alors celui qui est tout en bas, moi j'avais le choix maintenant de faire une bracha avec Kavana ou pas. Il avait le choix de se marier avec une Goya ou pas. Quand moi je fais maintenant ma bracha avec Kavana, il se peut que par le... Je fais monter un peu maintenant, hop, l'entité Israël, alors lui, hop, tac, il est sorti de son gros problème. Donc, qu'est-ce que je disais? C'était pas simplement créer des âmes, c'est que tu fais ça, n'importe quelle mitzvah, mais la mitzvah de Torah, elle fait que tu amènes, tu permets à des âmes de venir sur terre, des âmes qui étaient prises, il y a des âmes qui sont prises dans le côté négatif, elles ne peuvent pas venir sur terre. Par le détude de Torah, il n'y a aucune chose au monde plus grande que cela. Ah. Dieu nous a donné ce grand cadeau.
Pour en revenir aux Français,
oui.
Des remèdes, mais quand on est sous la douche, on ne peut ni prendre un lit, ni penser à un nom, ni...
Tu veux un truc sous la douche? Arrête l'eau chaude. D'abord, tu finiras plus vite. En plus, tu vas penser à autre chose. Il y a quelqu'un qui a très mal au pied. Qu'est-ce qu'on fait? On donne un grand coup sur la main et il ne sent plus le mal au pied. Effroi comme ça, tu ne penseras plus à rien du tout. Mais on peut penser, il est permis de penser dans la douche, dans la toilette, des notions de tshuva. Faire tshuva. Torah, des versets, de la Gemara, tu n'as pas le droit. Mais tshuva, Dieu, j'ai péché. Penser, je regrette ce que j'ai fait. Tu fais une très belle tshuva dans les toilettes.
À Dieu.
Hein?
Dis Dieu.
Non, tu dis pas Dieu, tu dis j'ai péché. Tu penses pas à Dieu. Dieu, c'est. Penser à Dieu, on pense toujours à Dieu. Mais voir le nom Yud Kevavke, ça serait interdit. Ça, c'est interdit. Mais simplement, ne pas oublier que Dieu existe et maintenant je regrette ce que j'ai fait, ça, c'est complètement permis dans les toilettes.
Là, Théorita, c'est pas sur des paroles de toi?
Vous voyez, Mahaner, il y a deux interdits. Il y a un interdit qui s'appelle Loire Bechaer Bat Davar. Loire. Dieu ne verra pas, Becha, en toi, Ervat, une nudité, Davar, c'est Dibour, c'est une parole. Donc tu peux penser des paroles de Torah en face d'une nudité. Mais il y a un autre interdit, juste à côté dans la Torah, Vaya Mahanecha Kadosh, ton campement sera saint. Et là, c'est dit même au niveau de la pensée. Tu n'as pas le droit d'avoir une pensée interdite dans les endroits qui sont impurs, tels que les toilettes, les douches. et toutes choses qui sont mauvaises à cause de putréfaction, telles que excréments ou ordures qui sont mauvaises, etc.
Pourquoi c'est impur ? Pourquoi ? Enfin bon, les excréments, ils peuvent se comprendre, mais pourquoi la nudité, c'est impur ?
La nudité n'est pas impure en elle-même. La nudité, elle est un dévoilement. Bon, ça c'est un cours que tout le monde entier sur la pudeur. En deux mots, on a une partie en nous qui est très fine, qui s'appelle la neshama, qui peut être sensible à la vérité ou aux choses divines. Mais on ne la voit pas. Et nous sommes éduqués depuis que nous sommes nés à fonctionner d'après nos sens. Nos sens, ils voient la matérialité. Ils sont sensibles à la matérialité. D'accord ? Je sens au niveau du toucher, au niveau de l'odeur, au niveau du goût. Et je suis, depuis que je suis né, j'étais insensible à ma neshama, mais très sensible à la matérialité. Donc quand il y a une nudité, forcément, ça... Bien sûr, une nudité de femme, qui pour un être humain normal, un homme normal, donc ça a tout de suite des réactions, c'est certain, même s'il ne va pas rêver à des choses terribles, mais déjà dans la tête, ça a déjà un impact. Mais même une nudité en tant que telle, simplement un homme qui voit maintenant, qui voit même pas sa nudité, ses organes, simplement il est en culotte, d'accord. La Torah, elle déconseille fortement d'être dans ces états-là, donc c'est pas pudique, pourquoi ? C'est pas un grand interdit, c'est une mida tova, c'est une bonne mida, un bon trait de caractère d'être pudique, même ne pas dévoiler notre corps, parce que lorsque le corps il est dévoilé, donc ça accentue chez nous comment appeler cela ? Ça accentue notre envie de matérialité. Alors que lorsque nous sommes cachés, alors ça, la matérialité a moins de terrain où aller et s'expandre. D'accord ? Alors, ça permet au contraire de développer la spiritualité.
Alors, quelqu'un qui souffre de la chaleur, il a besoin de se mettre en short, il souffre. Vraiment, il fait tout pour être pudique, mais non.
Il met un ventilateur.
De toute façon, on avait vu.
Non, mais il y a des fois, c'est vraiment... C'est terrible, quoi. C'est...
Il va sur la douche.
Il est parti à cacher chez l'homme et chez la femme, ils n'étaient pas du tout les mêmes.
Pardon ?
Il est parti à cacher chez l'homme et chez la femme, ils ne sont pas du tout les mêmes.
Oui, oui, oui.
Chez l'homme, c'est uniquement...
Néanmoins, non. Alors, il y a un interdit... C'est bien que je rappelle bien les choses très clairement. Il y a un interdit, il y a une midatova. Il y a un très bon conseil. Le très bon conseil concerne les parties qu'il est permis de dévoiler. Il m'est permis, d'après la loi, de dévoiler mon torse. Mais c'est très déconseillé parce que ça manque de pudeur. Ce n'est pas la façon juive d'être. Nous voulons, au contraire, cacher notre corps pour être plus branché avec les choses qui sont spirituelles. Et vraiment, ça fonctionne. C'est comme ça que c'est comme ça que c'est marqué. C'est comme ça que ça fonctionne vraiment. Il y a un interdit de parler des paroles de Torah en face d'une nudité. Qu'est-ce qu'une nudité ? C'est pour un homme les organes génitaux et le postérieur, et pour les femmes toutes les parties qu'on n'a pas le droit de voir, c'est-à-dire tout à part, depuis le cou ici en haut, le visage sans les cheveux pour une femme qui est mariée, les cheveux pour une femme qui est non mariée, on peut les voir, et les avant-bras depuis les coudes. Tout le reste est interdit, appelé nudité. Je n'ai pas le droit de... dire une parole de Torah en face de cela. Et je n'ai pas le droit de regarder cela. À part dans les cas d'intimité avec sa propre femme. Baruch Adonai, Amen, Amen.